One, two, ten, check. It's okay. That's it, man.
Provoscopie, l'émission politique de divergence aux commandes le loup, le renard et la bolette. Et avec nous, pour vous, Anne-Yvonne Ledin, notre Versaillaise, spécialiste de la protection douce contre l'érosion des littoraux. De là à en avoir fait une marque de fabrique au sein du Parti Socialiste, durant 90 minutes, nous allons naviguer en perpénard le long des rives du Lèze. Nous divergerons ensemble sur l'érosion du pouvoir central parisien au cœur des collectivités territoriales. Puis, la mano en la mano, nous parcourrons les rives du Lèze et scruterons l'érosion de la militance socialiste ici-bas, ainsi que les déboires d'une réconciliation qui tarde à se manifester. Enfin, nous voguerons vers des futurs espérés en écoutant les rêves et désirs de notre invité, qui est déjà, et pour la seconde fois, vice-présidente de la région, en charge cette fois-ci de l'enseignement supérieur. Et de la recherche. Enfin bref, de quoi passer un bon petit moment citoyen, vous en conviendrez. Et maintenant, place au palabre, mais avant le petit jingle.
Divergente et divergent. Vous êtes bien calé dans vos fauteuils? Quelques glaçons dans vos verres respectifs? Bon. Vous le savez, à Provoscopie, rien ne peut se faire sans l'Uchronie du loup. Ce soir, il serait question de sécession des régions, d'états généraux et de révolution. Qu'en est-il, le loup ?
Ah, vous savez, l'histoire, si elle n'est jamais un éternel recommencement, joue souvent au balancier. Je vous en ai d'ailleurs parlé plus d'une fois. De temps à autre, chacun a le sentiment d'un déjà-vu, déjà-vécu. Parfois, c'est en creusant dans nos souvenirs d'écoliers qu'on peut avoir l'impression d'un grand bond en arrière. Et pourtant, depuis quelques décennies, depuis les riches heures mitterrandiennes, le girondisme prend le pas sur le jacobinisme. La décentralisation pervertit le centralisme parisien, comme un relent de féodalisme parfume les humeurs élyséennes. Et ce, tout particulièrement dans notre midi. Et l'affaire de se retrouver chiffrée, au détour de scrutins électoraux. Les citoyens ont emboîté le pas aux élus. Ils se rebellent par l'entremise d'un bulletin de vote. Il suffit de se reporter à ce que les politologues appellent le vote protestataire ou encore le vote sanction. Souvenez-vous comment la pensée unique a été balayée lors d'un référendum en 2005. Rappelez-vous en mars cette année comment les languedociens ont provoqué, méprisé Paris en plébiscitant Georges Frêche à la tête de la région, le Languedoc-Roussillon. Justement, tout porterait à croire que nos élus s'apprêtent à pousser le bouchon un peu plus loin. Il y aurait de la révolte dans l'air, voire de la révolution. Au cœur des collectivités territoriales, quelques décideurs, et non des moindres, réfléchiraient à nous rejouer les grands airs de la Révolution française. Et comment diable ? En utilisant un outil créé par le petit Nicolas en matière constitutionnelle. Et alors ? En lançant une pétition avec l'idée qu'elle recueillerait au moins 4 millions de signatures. Pétition exigeant une réunion des États généraux comme en 1789. Et pourquoi faire, s'il vous plaît ? Pour les mêmes raisons que jadis, la faillite de l'État, sa banqueroute programmée et celle des Français par la même occasion. De plus, l'État est devenu littéralement voyou en refusant de payer ce qu'il doit aux collectivités territoriales. Et voilà que quelques présidents départementaux provoquent Paris en faisant voter des budgets déficitaires. Ce qui est totalement illégal. Pourquoi provoquer ? Car l'État ne s'acquitte pas ou plus de sa dette envers eux, envers nous. Et voilà qu'ici ou là, on rêve de s'émanciper, de prendre le large, de se fédéraliser, de se proudhoniser. Et pourquoi pas d'aller au-delà d'États généraux jusqu'à la sécession, à la mode belge. Mais pour de tout autres raisons. Il en serait fortement question dans les couloirs de nos élus territoriaux. D'autant que le peuple s'apprête à se réveiller. La révolte gronde, les solutions déflationnistes inventées par Pierre Laval dans les années 30 et reprises par Fillon, notre Premier ministre, ne peuvent qu'attiser la braise, mais l'histoire ne repasse jamais les plats, elle n'est qu'un mouvement de balancier, il faut aujourd'hui trouver les solutions pour demain. Refaire 1789 ? Non ! Mais poser les conditions d'une future révolution, pourquoi s'en priver ? Et alors, on ne pourra que proclamer « Vive la crise !» Le vrai accélérateur de l'histoire. Bien sûr, encore une fois, tout cela n'est qu'une uchronie. Mais comme d'habitude, si tout n'est pas entièrement vrai, rien n'est tout à fait faux. Merci et place au débat. Mais avant le débat, une petite musique apportée par Anne-Yvonne Lodin. Alors, vous avez choisi quoi comme première musique ?
Eh bien, ça va peut-être vous surprendre, mais je vous ai apporté du blues. Ah. Qui date des années 1922-1927.
Pouf, ça y est, j'ai une larme.
Et qui est écrit, cela va peut-être vous étonner, par Maurice Ravel.
Alors, du blues, c'est par Maurice Ravel. J'espère que c'est pas joué par Agathe the Blues, quand même.
C'est joué par un orchestre magnifique à l'occasion de... C'est joué, en fait, par deux musiciens d'exception, Fazil Zay et Patricia Konisovskaya, qui sont l'un turc et l'autre polonaise. J'ai choisi des musiques qui nous vont faire le tour de l'Europe et qui, quelque part, au fond et en dernier, nous font faire le tour du monde.
Là, on va écouter ça. Du blues, du blues fait par Ravel, on va écouter ça.
Ça, c'est du blues.
Alors là, vraiment, effectivement, quelque chose de tout à fait exceptionnel. Hein, du Ravel qui fait du blues. Là,
vraiment magnifique.
On a appris quelque chose.
Je suis très fière et très contente. Mais c'est Patricia Kotizovskaya et Fazil Zay sont des musiciens absolument magnifiques, l'un comme pianiste et l'autre comme violoniste. Elle est sidérante en tant que violoniste. Et lui, c'est à la fois un pianiste d'exception et un compositeur. J'ai trouvé qu'entre la Turquie et la Pologne, sur une musique française de jazz, ça m'a fait plaisir. Sur la fête de la musique.
Et alors, en plus, le jour de la fête de la musique, on va vraiment entendre tout et n'importe quoi ce soir. Entendre au moins un bon morceau sur ce coup-là, ça fera pas de mal. On va passer, s'il vous plaît, maintenant aux choses sérieuses. En la compagnie d'Anne-Yvonne Lodin, notre Versaillaise socialiste, arrimée sur les bords du Lèze, j'y tiens, en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche. Au Conseil régional du Languedoc-Roussillon, ensemble ce soir, on va diverger, pinailler autour de trois débats. Tout d'abord, nous allons revenir sur ce cri du peuple qui monte peu à peu et tente à gagner nos élus territoriaux les plus respectables face à la réformite aiguë de l'Élysée. Il y aurait même de la manif dans l'air jeudi prochain à Montpellier comme partout en France. Il y aurait de la sécession dans l'air. La province est lasse de Paris et particulièrement le midi, je crois, après une courte pause musicale. Nous parlerons de socialisme, ici et ailleurs, mais aussi de la vie quotidienne d'une élue à la région et dans l'opposition à la mairie de Castelnau-le-Lez. Puis enfin, avant de nous quitter, nous sonderons les oracles pour deviner les avenirs de notre invité, Anne-Yvonne Le Dain. Mais avant tout, Anne-Yvonne Le Dain, maintenant ça devient une petite tradition depuis 7-8 émissions, la question qui tue. Ah, question qui tue.
Là, vous partez sur les chapeaux de roue.
Alors, quel type de femme politique êtes-vous? Si l'on en croit Arthur Schnitzel, un philosophe autrichien à la fin du XIXe siècle, il y aurait trois sortes d'hommes politiques. Ceux qui troublent l'eau, ceux qui pêchent en eau trouble, et ceux plus doués, selon lui, qui troublent l'eau pour pêcher en eau trouble. Alors vous faites partie de quelle catégorie, si on respecte...
Arthur Schnitzler n'est pas un faute philosophe pour lequel j'ai énormément de révérence. Je tiens à le souligner. Les trois expressions en question me prouvent à quel point, au fond, mon instinct primitif de lectrice de base de la philosophie de la fin du 19e, où je connais à peu près correctement, je crois, mais et en tout cas pas tout, je suis assez sidérée qu'on puisse dire ça. On ne peut pas à la fois refuser la dictature et donc vouloir la démocratie, et en même temps dire en permanence que les politiques sont vivent dans le trouble. C'est compliqué, le monde politique. C'est le compliqué, on le voit bien. On sait que la politique, en démocratie, la politique, c'est l'art de la guerre en temps de paix. Et ça, c'est fondamental. Mais au fond, c'est quand même l'art de la guerre. L'avantage de la démocratie par rapport à la dictature, c'est quand même que maintenant, quand on meurt, on ne meurt pas physiquement. Ce qui est quand même un grand avantage. Je rappelle pour mémoire que le XXe siècle, c'est deux guerres mondiales. Et des millions et des millions et des millions de morts, et pas seulement des soldats. Je n'oserais, et notamment dans les années 14-18, la chair à canon, comme on les appelait, les soldats, et dans les années 40, la débâcle, le drame, et puis cette horreur qui a été le massacre, l'Holocauste, bien sûr, mais également les gitans, mais également les homosexuels. Enfin, voilà. Et puis après, on n'a pas de leçon de morale à donner au monde, à personne dans le monde. On a fait l'Indochine, et c'est la gauche qui l'a fait, c'est la SFIO, c'est les Guimolais qui parlaient bien et parlaient fort, et ont gagné contre les réformistes de la SFIO, et ont tenu ensuite une politique extrêmement médiocre, pour ne pas dire merdique, excusez-moi du terme, mais au bout du compte, pour vendre quoi? Pour nous faire Dien Bien Phu, pour avoir une attitude par rapport à ces colonies qui étaient les nôtres,
oui, mais ça,
qui étaient lamentables.
Dans une cuvette, ça date de Crécy en
1347. Oui, mais on n'est pas obligé de mener des guerres sales pour des peuples qui veulent la liberté. On doit la leur donner et construire cette liberté avec eux, au bénéfice mutuel. Au leur, bien évidemment, mais également au nôtre. Aujourd'hui, on paye encore ça. On a eu la guerre du Vietnam. On a eu le drame des tirailleurs sénégalais. Ça, c'est 45. N'oublions jamais ça. Nous n'avons pas de leçon de morale à donner au monde. Et en matière de démocratie, je répète, la politique, c'est l'art de la guerre en temps de paix.
Vous faites référence à Sun Tzu, l'art de la guerre. Il y a un autre stratège, Clausewitz, qui dit que dans la guerre, il y a le brouillard de guerre. Justement, c'est pêcher nos troubles. Alors, comment vous pouvez analyser la duplicité de la guerre, justement, dans notre station par rapport justement à celle de Clausewitz, qui dit qu'il y a une forme de brouillard dans toute guerre et qu'il faut justement combattre les centres de commandement pour les rendre aveugles. La politique, c'est un peu ça, rendre aveugle son adversaire pour pouvoir le piquer là où il faut. Non,
moi, je pense que dans les démocraties modernes, en tout cas celle du siècle qui s'ouvre, dans lequel on est déjà quand même depuis 10 ans, le 21e siècle, la population, dans nos démocraties, elle est de mieux en mieux éduquée. Elle est de mieux en mieux attentive. Et quand elle souffre, elle sait. Et ce qui est le cas aujourd'hui.
Vous croyez qu'elle est mieux éduquée?
Ah oui, je suis certaine qu'elle est mieux éduquée.
Il y a des moyens de communication qui se sont, dont la puissance s'est multipliée par 10, par 100, par 1000. Mais ce qui ne veut pas dire pour autant qu'il y a une éducation.
L'éducation, c'est aussi ce qu'on a à l'école. Et aujourd'hui, on a un gouvernement qui est en train de casser l'école.
Vous
ne
croyez pas qu'au niveau des démocraties, le plus grand danger, justement, c'est la manipulation? Justement parce qu'il y a
Bien sûr que c'est le plus grand danger.
On a vu la guerre d'Irak.
Mais bien sûr que c'est le plus grand danger. Mais les médias ont été
complices. On peut multiplier par
Oui, mais cher monsieur, sur la guerre en Irak, et notamment la première et même la seconde, les médias ont été ouvertement complices. Les médias font partie du pouvoir aujourd'hui.
C'est là où il y a la manipulation.
Et donc, c'est aussi pour ça que moi, quoi qu'il m'arrive...
Est-ce que le citoyen est armé pour lutter?
Je mourrai pour la liberté de la presse. Je me battrai, je mourrai pour la liberté de la presse. Et la force aujourd'hui d'Internet, en plus des radios, en plus de la télé, en plus du papier, la force d'Internet, c'est que maintenant, je crois que la population est éduquée et qu'elle est de plus en plus éduquée. Bien sûr qu'il y a des zones troubles et complexes. Et c'est que les gens vont chercher partout, sur tous les supports, d'information, l'information qui leur permet de comprendre et de construire avec leur cerveau, leur compréhension, leur connaissance du monde, de construire l'avenir qui leur convient, mais d'être informé. Et ça, je crois que le métier qui est le vôtre, de l'information, il est fondamental, mais que ce n'est pas de votre déontologie est nécessaire. Malheureusement, tous vos collègues ne la partagent pas, mais la déontologie de l'ensemble du système fonctionne parce que justement, il y a une multiplication des supports. Que par ailleurs, vous me disiez que progressivement, et vous êtes une des seules radios libres qui existent encore, mais que le grand capital achète et s'approprie progressivement les supports de communication. Bien évidemment, j'en suis convaincue, mais je voudrais quand même vous rappeler que nous avons élu le président Sarkozy et que celui-ci, dans les semaines et les mois qui ont suivi, a quand même immédiatement fait main basse sur à peu près tous les médias français et les a donnés à des groupes de presse qui sont les siens.
Oui,
et bien pour autant, Internet contrebalance.
Georges Frêche à la région s'apprête à faire main basse, entre guillemets, sur cette LTL aussi.
Mais pas du tout. Je ne sais pas si vous permettez de dire une chose pareille.
Info publiée dans Midi Libre, dans La Glorieuse.
D'abord, c'est un média. Donc voilà, c'est comme vous, il faut le prendre. Et cette LTL, moi, je regrette un petit peu que cette LTL, soit racheté. Il y a un groupe qui est en train de le racheter. Moi, je ne voudrais pas me prononcer là-dessus. Mais d'un autre côté, les radios libres ne vivraient pas. S'il n'y avait pas également le soutien du Conseil régional et de Georges Frêche, on s'est rencontrés, vous vous en souvenez peut-être, il y a quelques années, ou en tout début, en 2004-2005, quand on démarrait, c'est moi qui allais vous voir, c'est moi qui allais discuter avec vous, et c'est nous qui avons mis en place ce soutien très fort, notamment pour vos équipements, parce que c'est quand même que ça coûte très cher, ces machines dans lesquelles on parle aujourd'hui. Hein. Donc on vous accompagne dans cette procédure-là. Est-ce que pour autant on vous achète? Non. Voilà, donc la pluralité des supports, la pluralité des métiers est la garantie profonde de la démocratie. Et dire et penser que le peuple... Comment dire, la population, le peuple, c'est un mot qui commence à être dévoyé, mais j'y crois profondément. Je crois que les gens sont profondément honnêtes et sincères, viscéralement, et ils sont éduqués. Et le gouvernement actuel, M. Sarkozy, est en train de casser le système éducatif français.
Vous pensez que ce n'est pas une tendance naturelle du pouvoir, justement, d'utiliser sa force pour choisir ses médias, choisir...
Mais bien sûr que c'est une tendance du pouvoir. C'est
ou
pour ça que...
même punir, ou même punir, punir d'autres.
Mais c'est bien sûr, ouais, c'est théorisé tout
David
ça, bien
Miller,
sûr.
David Miller, un penseur américain qui a mis en place un concept qui s'appelle l'information dominance, bien la sûr. Dominance de l'information, avec la guerre pour l'information, par l'information et contre l'information. Bien à sûr. Partir de ça, on peut tout quadriller dans l'information. Ouais. On peut complètement la
c'est bien ce que vous avez dit.
On peut complètement
mais
la contrôler.
Mais oui, mais tout le monde est coupable et tout le monde est responsable. Qu'on
en revienne à Sarkozy, justement, à toutes ces réformes, et puis à la situation de la France, on entend un peu partout qu'on est pratiquement en situation de banqueroute, de faillite financière. Alors, est-ce que c'est vraiment crédible? Est-ce que c'est vrai? Et puis alors, pourquoi est-ce que le PS, les socialistes, ne reprennent pas cette idée de François Bayrou de lancer une pétition qui recueillerait 4 millions de signatures et où, dans ces cas-là, ça obligerait un référendum sur les politiques à suivre? Et puis, le PS, qu'est-ce qui fait? Quelles sont ses propositions pour justement faire face à cette banqueroute-là?
Moi, je suis exclue du Parti socialiste pour des raisons qui m'échappent toujours un peu, puisque j'avais été investie avec Georges Frêche sur une liste officielle et que j'ai reçu une lettre m'informant que j'étais exclue du parti. 3 semaines à peine avant le vote, les listes étaient donc déposées. Donc je suis un peu sidérée de l'absence totale de procédures juridiques au sein du Parti socialiste actuel. Mais dont acte. Il va quand même falloir qu'on se réconcilie. Et c'est indispensable. La gauche doit arriver progressivement à se souder, à s'organiser. Mais
concrètement, si on est en situation de banqueroute, alors ils vont faire quoi? Est-on vraiment en situation
de
banqueroute?
On n'est pas vraiment en situation de banqueroute. Des agences de notation, on est toujours noté à 3+. Donc même si la dette de l'État est de 19 000 euros par habitant, ce qui me paraît absolument hallucinant, je rappelle pour mémoire que la dette de la région est de 180 euros par habitant, ce qui est quand même dérisoire, et que par ailleurs les collectivités territoriales, de par la loi qui avait été faite par François Mitterrand avec... le Premier ministre de l'époque,
Mauroy,
avait imposé que les collectivités territoriales doivent voter des budgets en équilibre. Et donc nous votons des budgets en équilibre et nous sommes en équilibre.
Ce qui est encore le cas aujourd'hui.
C'est la loi. Mais l'État est capable de voter un budget en déficit effrayant.
Donc là, on est...
Est-ce que vous soutenez l'attitude de ces 13 présidents de conseils généraux qui ont voté des budgets déficitaires délibérément en prenant en compte dans leur budget ce que l'État leur doit et ne leur paye pas?
Mais ce qui est une réalité, c'est que l'État doit de l'argent et n'en paye pas. Et la réforme qui est en train de
donc c'est l'État voyou. Donc
quand Martine
Aubry a comparé Sarkozy avec Madoff, c'était certes une figure de style.
Quand
l'État doit de l'argent et ne donne pas l'argent qu'il doit...
L'État est en train de régler le problème puisqu'il est en train de faire main basse sur les collectivités territoriales. Le vrai rapt, il est là. Ils sont en train de faire quoi? De supprimer des élus régionaux et départementaux sans supprimer les administrations. Et de faire des conseillers territoriaux, des gestionnaires de collectivités territoriales dont le budget vient de Paris. Puisque maintenant, tout sera recentralisé à Paris. Nous n'aurons plus le droit de lever correctement les impôts locaux. On n'est plus maître de nos impôts locaux. On est en train de revenir aux années 50, c'est-à-dire Paris et le désert français. Il est vrai qu'aujourd'hui, et les journaux le montrent, la dynamique qui fonctionne en province, dans les villes, les petites et les grandes villes d'ailleurs, dans les départements, dans les régions, fonctionne. La richesse s'accroît. Le niveau moyen de salaire s'accroît, plus qu'à Paris. Le nombre de cadres de haut niveau, on peut faire une carrière complète à Montpellier, à Bordeaux, à Lille ou à Strasbourg aujourd'hui, complète une belle carrière sans avoir besoin de monter à Paris, ce qui était le cas avant. Donc ça, au fond, ça dérange. Et l'État, ayant besoin d'argent, est en train de piquer dans la caisse des collectivités qui sont bien gérées et qui ont agi. L'argument étant de dire, finalement, les collèges et les lycées sont construits, les routes sont faites, les stations d'épuration sont terminées, tout le reste, c'est de l'argent en plus pour faire fonctionner le système. Eh bien, très bien, je remonte ça à Paris, je fais gérer ça au préfet et je mets auprès d'eux des conseillers territoriaux exactement comme avant. Mais quelle économie on va faire? Puisque les administrations ne changent pas, puisque la structure institutionnelle ne change pas. On va garder l'administration des départements, garder l'administration des régions, garder l'administration des agglomérations et des mairies, et personne ne dit rien. Vous, les journalistes, vous devriez regarder des choses comme ça, ça c'est concret. Évidemment, c'est pas vendeur, parce que c'est technique. Mais sur le fond, c'est la vraie question. Donc, la question du politique, la question de tous pourris, la question de l'articulation entre le rapport entre médias et politique, c'est le cœur de la démocratie. Et le cœur de la démocratie, c'est comme en tout, c'est la gestion de l'argent. Qui n'est pas libre de l'argent qu'il gère n'a aucune liberté tout court.
Aujourd'hui, il n'y a aucune transparence.
Il y a une totale transparence. Tous les budgets sont honnêtes et sincères, ils sont publiés, publics. Toutes les délibérations
aujourd'hui,
sont...
Aujourd'hui, il n'y a pas de transparence. En ce sens qu'effectivement, oui, je concède qu'effectivement, au niveau d'une collectivité territoriale, les budgets sont transparents.
Oui. Action par action. C'est pas du tout le cas de l'État.
Quand je dis qu'il n'y a pas de transparence, je ne pense pas aux collectivités territoriales.
Ah, mais merci de le préciser.
Je précise.
C'est important.
Je précise que c'est au niveau de l'État.
C'est
et lorsqu'on parle, alors qu'on parle de banqueroute, ce qui est curieux, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, personne ne sait. Ou celui qui sait ne le dit pas, comment est utilisé...
La Cour des comptes commence à le dire.
Qui n'a aucun pouvoir.
Et donc, messieurs, si vous me le permettez, c'est votre rôle de journaliste de dire et redire, parce que c'est voilà, pas parce qu'on a dit quelque disons. Chose...
Une,
excusez-moi, et je parle à vous, parce que vous m'invitez, c'est gentil de me donner un peu le moyen d'en parler, mais les journalistes, c'est beaucoup de monde aujourd'hui. En France, c'est beaucoup de médias. Or, à partir du moment où une chose a été dite une fois... Donc, on considère qu'elle a été dite. Or, il faut le dire et le répéter.
Est-ce que ce n'est pas la première réforme qu'il conviendrait de faire aujourd'hui, de faire en sorte que la Cour des comptes puisse avoir un réel pouvoir et d'information, même y compris un devoir de dénonciation, de sanction.
De sanction, oui. De dénonciation, elle l'a. Le rapport est public.
Je dis
de sanctions, oui.
De sanctions.
Oui. Eh bien, après, ça pose le problème de la gouvernance et donc du rapport entre l'État
exécutif
et législatif.
Et est-ce que l'élu
ça pose
aujourd'hui...
des problèmes constitutionnels très, très importants.
Oui,
hein,
mais
vraiment.
Est-ce que l'élu aujourd'hui est prêt, justement, à être sanctionné? Ça, c'est la véritable
question.
Ça dépend
question. De quel élu on parle. Excusez-moi, les ministres...
C'est là où on pose le problème de la démocratie.
Excusez-moi, monsieur. Les ministres ne sont pas élus. Ils sont nommés. Et ça, c'est un point qui n'est pas anodin. Les gouvernements, le seul est élu le président de la République. Les autres sont tous nommés. Ensuite, c'est les assemblées parlementaires. Donc, la question est, de savoir si on doit se à quel espace et dans quel endroit de l'Assemblée nationale, Parlement et Sénat, doit se situer effectivement non seulement le pouvoir de contrôle, mais le pouvoir de sanction, de régulation, le pouvoir d'arrêt. Mais on peut peut-être se poser la question de savoir si on ne pourrait pas inventer des concepts qui pourraient être dire finalement, après tout, quand tout va bien, quand l'économie va bien, quand la croissance fonctionne, quand on a des chiffres, une croissance avec des chiffres qui sont compatibles avec la moyenne mondiale, peut-être que l'État pourrait voter un budget en équilibre et pouvoir le laisser filer, éventuellement, quand on est dans des zones qui sont plus incertaines, où il y a effectivement une rupture de crise, où il faut soutenir. C'est ce que font les collectivités. Nous, depuis trois ans, la crise, on a accru lourdement nos investissements.
Vous êtes fabusienne un peu. C'était un peu les grandes théories de Fabius à la fin des années 90.
Non, je crois pas.
Par exemple, pour le prix de l'essence, où il tenait un discours un peu comme ça. Quand le prix du pétrole monte, on baisse la TIPP. Puis si le prix du pétrole descend, on remonte la TIPP.
Oui, mais la TIPP, c'est un truc un petit peu compliqué. Et si je puis me permettre, avec ce qui est en train de se produire actuellement dans le golfe de Floride, ça ne va pas s'arranger. Parce que le BP va avoir des sommes absolument monstrueuses, non seulement en coûts, mais en indemnisation. Et tout ça va se répercuter sur le commerce mondial. Il faut quand même être lucide par rapport à ça. Hein. BP ne va pas mourir. Par contre, on va tous payer, y compris en termes écologiques et en termes d'impôts. Donc, sur ces questions-là, et maintenant, il faut se poser aussi la question de l'Europe. C'est pour ça que j'ai apporté des musiques du monde et en particulier de l'Europe. Il faut quand même se poser la question de l'Europe. Quel poids on a une double gouvernance à l'Europe actuellement, au niveau de la Banque Centrale Européenne. Et on sent bien que ça diverge entre les deux. Le français Trichet, qui, quand il était à la Banque de France, moi, j'ai quand même pas un souvenir immense de quelqu'un d'une immense souplesse intellectuelle et morale. Et l'Allemand, qui a des postures, en tout cas, qui sont explicites et non pas implicites. Donc on est dans quelque chose d'un petit peu délicat. Peut-être qu'il faut se poser la question, à force d'avoir dit, messieurs, pendant les années 80-90, qu'il fallait totalement décrocher la monnaie du politique, eh bien on y est. Le politique n'a plus aucun pouvoir sur la monnaie. Je rappelle que, pour mémoire, le dollar est complètement, il est indépendant en gestion, mais de fait, il y a un lien de fond et structurel entre le président des États-Unis et le patron de la Banque Centrale Américaine. C'est quand même des choses de fond. Le politique, il est légitime parce qu'il est élu. Il a des tas de défauts, et notamment les questions de troubles, etc., la gestion des rapports de force et compagnie. Mais il n'empêche qu'il est légitime. À force de vouloir décrocher le politique de la gestion, on aboutit à une gestion totalement de fonctionnalisé, de subordination, oui. Et qui au début est sympathique parce que les fonctionnaires font bien leur travail, mais qui au fil de l'eau et très rapidement aboutit à des petits arrangements entre amis que personne ne voit. Vous avez raison tout à l'heure de souligner que le budget de l'État, en fait, on ne sait pas comment il est consommé et ça n'intéresse personne. Le budget des collectivités, il est public. Vous, journalistes, vous avez accès à tout. Session après session, vous avez sous les yeux les sommes, les mandats, qui est destinataire, les adresses, tout. Vous avez tout. C'est ouvert.
Comment aujourd'hui un politique peut se réapproprier l'économie ?
Il faut un peu des gens qui ont fait de l'économie. Moi, je pense, sur le fond, c'est qu'il serait bon qu'il y ait un peu plus de gens qui ont effectivement eu une activité professionnelle lourde dans le monde politique. Moi, il se trouve que moi, j'ai une activité professionnelle encore aujourd'hui.
C'est pour ça que je vous pose la question.
Et je crois que le fond du débat, il est là. C'est qu'on a un peu trop de gens qui sont ou très riches parce qu'ils gèrent des cabinets de ceci et de cela, ou des gens qui sont permanents politiques. Et c'est ça, la gestion des rapports de force. On est dans une période complexe qui est en train de tourner. Regardez le débat sur les retraites. Moi, je trouve ça effrayant.
Alors justement parlons un petit peu des deux grandes réformes.
Et ma musique, vous n'en voulez pas de ma musique ?
Si, juste après.
J'en ai amené 6. Quand on parle
des deux grandes réformes que Sarkozy est en train de faire passer, d'une part la réforme des retraites, d'autre part la question scolaire, parce que mine de rien, là, pendant la Coupe du Monde de foot, pendant ceci, cela, il y a la réforme scolaire là, qui, ça y est, elle est passée. Alors, d'abord, deux mots rapidement sur les retraites. En même temps, les socialistes, on les entend pas guère là-dessus, sauf pour se bloquer sur la retraite à 60 ans, mais en disant, mais si que le jour où il reviendra au pouvoir, il reviendra à 60 ans, et ça, personne ne le croit. Alors, qu'est-ce qu'il y aurait comme autre solution à la question des retraites ?
Moi, je pense que le PS et les forces de gauche se trompent de combat en campant sur des postures gagnées dans les années 80, à l'époque où personne croyait véritablement à la crise pétrolière. Vous souvenez-vous, on était au premier choc pétrolier, le deuxième n'avait pas encore eu lieu. Donc je pense qu'on est dans un espace où il faut être beaucoup plus souple. Et la manière dont le gouvernement actuel répond sur la question de la pénibilité au travail en disant que ça sera au cas par cas et dans les mains des médecins du travail, c'est scandaleux, parce que ça veut dire que vous donnez une responsabilité publique lourde à un individu seul dans son cabinet.
En termes de financement.
Mais en termes de financement, il faut être un peu habile.
Aujourd'hui,
il y a les régimes spéciaux qui sortent à 55 ans et on peut aller jusqu'à 65 ans. Il serait bien de travailler sur le concept de pénibilité au travail et de travailler là-dessus, et pas que ce soit optionnel.
Mais pourquoi ne pas le financer par l'impôt ?
Je ne vois pas ce que ça change. Au bout du compte, c'est un prélèvement sur les ménages.
La vieille idée qui était la TVA sociale que les Allemands ont mis en place, qui explique d'ailleurs en partie leur bonne santé.
Il faudra que l'impôt prenne en charge une part importante.
Oui, mais c'était l'objectif de la CSG, de la vous en souvenez. C'était l'objectif de la CSG, oui, qui avait mis en place Rocard.
Que ce soit la TVA sociale, la CSG ou une autre version que je ne connais pas.
On ne peut plus augmenter les prélèvements sociaux. Je ne crois pas qu'on
puisse continuer. Non, mais ce n'est pas les prélèvements sociaux.
C'est pareil.
Non,
mais aujourd'hui, les prélèvements. Quand on regarde tout en même temps, quand on dit qu'il y a plus de 40% de prélèvements sociaux en France, c'est tout compris. Donc on peut faire des caisses de répartition, parce que justement l'idée,
c'est la TVA sociale,
répartir.
La TVA sociale,
c'est
je prends des sous là et je retire là. Enfin,
là, apparemment Sarkozy a compris qu'il ne pouvait pas indéfiniment faire croire que les riches ne pouvaient pas payer. Enfin, vous avez vu le niveau auquel il la France, c'est 11 500 euros par mois. Riche, 11 500 euros par mois, mais vous imaginez.
Mais il fait semblant.
Plus que semblant, il se fiche un peu du
monde. Alors les retraites, de toute façon, ça va être l'objet de notre dernière émission la semaine prochaine. Qu'on dise deux mots, parce qu'il nous reste 4-5 minutes maximum sur ce thème-là, pour parler de la question scolaire.
Ah bon, oui,
alors,
ça,
la
c'est
question
important.
Scolaire.
Autre question.
Est-ce qu'il faut vraiment obéir à Bruxelles ? C'est-à-dire supprimer les maternelles, parce que c'est quand même une directive qui vient de...
Mais ça, c'est des blagues. Hein.
Ah non, ça, c'est pour des blagues. On est le seul pays de l'Union européenne à avoir des maternelles.
Oui, mais ça, c'est... Oui, mais c'est pas Bruxelles qui nous interdit de le faire.
L'école doit-elle se réduire aux matinées ?
Ça veut dire que c'est la faute de Bruxelles. Excusez-moi, ça, c'est pas vrai. C'est pas la faute de Bruxelles. Bruxelles ne nous demande pas d'enlever les maternelles. Ça, c'est de la manipulation médiatique. Ça, c'est faux. Bruxelles ne nous demande pas d'enlever les maternelles.
On est le seul pays européen à avoir des maternelles.
Mais c'est pas une raison. Bruxelles ne nous dit pas, puisque vous êtes le seul, enlevez-le. Ça, c'est une interprétation, et c'est ce que peut effectivement dire le président Sarkozy, s'il le veut, ou Fillon, pour nous faire croire des salades. Mais c'est des salades.
Et puis tout le reste.
Est-ce la qu'il maternelle, faut c'est ce qui marche le mieux en France. Ça marche vraiment bien.
Absolument.
C'est formidable.
Est-ce qu'il faut réduire l'école aux matinées, parce que l'après-midi, il faut faire du foot. Est-ce qu'il faut supprimer les redoublements?
Est-ce que
le bac a encore un sens?
Oui.
Et puis quelle université demain? Et quand est-ce qu'on va enfin introduire la sélection à l'entrée à l'université?
Vous voulez que je fasse ça en 4 phrases ou en 12?
Non, 3.
Mais vous rendez compte de l'ampleur de la tâche? Moi, je défends les maternelles. Par contre, je dis, excusez-moi de dire, je vais encore dire une horreur, mais quand j'étais présidente départementale de la FCPE, je me heurtais à un groupe d'adhérents FCPE qui voulaient absolument qu'on finance, que l'État finance la maternelle à 2 ans. C'est-à-dire qu'on... Et moi, j'ai toujours été contre ça. Je trouve que 2 ans, c'est trop petit pour être en collectif lourd et qu'il faut effectivement un travail pour entourer les enfants. Et que ça se justifie, la maternelle à 2 ans, dans les catégories sociales pour lesquelles l'accès au langage, à la verbalisation... Et je ne parle pas de la langue, hein, je parle pas je parle de la verbalisation, le fait de poser des mots et donc de poser des mots sur des objets et donc derrière sur des concepts. Donc ça a été une erreur. Et toute une partie que je dirais la gauche clavière l'a portée, parce que finalement c'est quand même moins cher d'avoir son enfant à la maternelle que de payer une garderie. Mais à l'époque, en tant que présidente de la FCPE,
c'est incroyable qu'ils apprennent à l'âge de 2 ans.
Oui, mais à la crèche on en apprend tout autant.
Des éponges.
À la crèche on en apprend tout autant.
J'ai les deux expériences donc de mon aîné qui lui est passé par donc la scolarité à 2 ans, et puis l'autre qui est à la crèche. C'est sympa la crèche, mais il n'y a pas photo entre les deux. Hein.
Oui, mais c'est une question de coût social. J'ai trois enfants.
La maternelle à l'âge de 2 ans.
Je crois que
plus performante que la crèche.
Il faut individualiser, mais il faut plus individualiser. C'est une question. Une société, c'est une question.
Quand je dis individualiser, c'est qu'en fin de compte,
la crèche à 2 ans, dans les quartiers, en direction des populations dont on sait qu'elles sont en souffrance, dont on sait que la maman à la maison est toute la journée et qu'elle est ou débordée de travail ou qu'elle n'est pas là et qu'il y a problème de verbalisation. Là, évidemment, c'est essentiel. Après, dans les familles qui ont tout à fait les moyens, intellectuels et financiers, la verbalisation, elle se fait naturellement. Bien sûr que ça serait mieux, mais il y a un coût social. il faut savoir qui paye. Après, l'État, la puissance publique, elle n'a pas énormément, elle n'a pas des quantités infinies d'argent. Donc il faut faire des choix. Faire de la politique, c'est faire des choix.
Il faudrait peut-être mieux qu'ils rentrent à 2 ans et puis qu'ils sortent à 14 ans, plutôt que de les traîner obligatoirement jusqu'à 16 ans.
Moi, c'est ce que je crois aussi.
Alors qu'ils ne servent plus.
Je crois que l'effort, on doit le faire dans les premières années.
Mais
que ce soit sur le plan de l'éveil du gamin ou même sur sa socialisation. S'il faut mettre le paquet, c'est dans les premières années.
Vous n'êtes pas. Enfin, moi, j'ai rencontré quand même beaucoup de maîtresses de maternelle qui n'ont pas forcément envie de passer leur journée à enlever les couches des gamins. C'est un vrai sujet quand même. Hein. Mais moi, ce que j'ai pu constater quand même, c'est que dans les catégories sociales relativement aisées, c'était surtout un avantage financier pour les familles. Dans les catégories sociales défavorisées, c'était surtout un avantage pour les enfants. Et donc après, c'est une question de choix social. Je suis d'accord. Actuellement, ce qui est en train de se faire, la suppression des maternelles, ça va aboutir à quoi ? À ce que dans les grandes villes qui ont les moyens, ou les agglomérations, la collectivité va, si on ne leur coupe pas les vivres, comme c'est le cas actuellement avec la réforme Sarkozy, mais va pouvoir assumer, jusqu'à un certain point, le remplacement.
Il existera des maternelles privées comme il existe d'autres.
Mais dans les villages ou dans les petites villes qui n'ont pas beaucoup d'argent, dans beaucoup d'endroits en France, eh bien, ça restera à la maison. Et on fera quoi ? On mettra les femmes à la maison, comme en Allemagne. D'où le débat sur la suppression de l'enseignement l'après-midi. Alors, on me rétorque qu'en Allemagne, il y a effectivement 60 ou 65 enseignants pour 1000 élèves et qu'en France, il y en a 80. Oui, mais la différence, c'est qu'en France, les femmes, la liberté des femmes au travail, l'accès à la liberté, l'accès au travail est fondamental. En Allemagne, les femmes ne travaillent pas massivement. Et les enfants, ils sont où ? À la maison, quand maman est là, et dans la rue, quand maman n'est pas là, quand maman travaille. Et maman travaille quoi ? Quand ? Dans les catégories sociales défavorisées.
Oui,
donc, les gamins sont à la rue quand la mère travaille et les enfants sont à la maison.
C'est un peu simpliste et réducteur.
Non, c'est absolument pas simpliste.
Il n'y a pas plus de dérives sécuritaires, j'allais dire, en Allemagne qu'il y a en France.
Je ne suis pas en train de parler de dérives sécuritaires.
Dans la rue, bon, bah oui, bah pourquoi pas.
Mais ils ne sont pas éduqués dans la rue.
Certes.
Eh bien oui, oui. Non, mais je ne vous parle pas de dérives sécuritaires. Moi, je vous parle absolument d'éducation, exclusivement d'éducation. C'est un manque d'encadrement. C'est un manque d'encadrement.
Bah, alors, si à la place, c'est pour leur faire du foot l'après-midi...
Non, mais de toute façon, je suis contre, moi, cette politique. Donc, de nous renvoyer au modèle allemand en disant, finalement, les enfants en classe le matin et font des activités éducatives et sportives l'après-midi, au bout du compte, en 3-4 ans, vous verrez que les activités éducatives seront transférées aux collectivités territoriales, là où elles pourront le financer. Et sinon, eh bien, c'est la porte ouverte à la privatisation de l'enseignement et la fin de l'éducation nationale. L'éducation nationale, c'est des normes nationales.
C'est un transfert de la responsabilité de l'État au niveau du système éducatif sur effectivement les collectivités territoriales.
Et donc, c'est la fin de l'éducation nationale. C'est venir à une éducation locale. Les profs nationaux le matin et l'après-midi, le mercredi, le samedi, la mairie ou le privé. Donc c'est véritablement extrêmement inquiétant.
Alors, c'est le recours au patronage.
C'est le recours au patronage. C'est dramatique.
Comme ça existe d'ailleurs dans pas mal de pays.
Mais c'est la spécificité française. Je vous rappelle quand même qu'en France, la France est quand même un des rares pays en Europe à être une république. Une république laïque,
solidaire
et démocratique. Ah bon. Il y a beaucoup de républiques, il y a beaucoup de royaumes aussi. On l'oublie. Mais la plupart, beaucoup des républiques sont des fédérations. La France, elle tient sur des principes et des concepts.
Pourquoi on n'est pas dans une république solidaire, alors ?
Oh, moi, je pense
si même vous, vous y croyez encore.
Moi, non seulement j'y crois, mais je le veux. On tient là-dessus. Je voudrais revenir. Vous m'avez présenté comme une Versaillaise et je l'ai assez mal pris.
Ah oui, voilà. Après, vous allez dire qu'on n'a pas pu passer
Après la musique, je reviendrai sur Versailles.
Alors, voilà. Donc, on va passer à un deuxième petit morceau de musique. Alors, c'est quoi le deuxième petit morceau de musique ?
Mais monsieur, allez-y. Mais j'en ai droit à 6.
Bonjour. Vous êtes en relation avec le service local du régime d'assurance chômage. Veuillez appuyer sur la touche étoile de votre clavier téléphonique. Veuillez composer le numéro de votre département de résidence habituelle.
Nous allons vous poser des questions qui figurent sur votre déclaration de situation mensuelle.
De votre numéro d'identifiant.
ce code. Il vous a été adressé par courrier. Si vous ne l'avez pas, demandez-le à votre agent. Veuillez patienter. Veuillez patienter. Pour actualiser votre situation mensuelle, tapez 1. Pour consulter votre dossier ACIDIC, tapez 2. 1. Tapez 2. 1. Tapez 2. 1. Tapez 2. Nous n'avons pas enregistré votre réponse.
De ce petit morceau qui s'appelle Chômage, mais Yvonne Le Dain ne sait plus de qui c'est. Donc, voilà. Elle nous a amené 245 morceaux de musique. Elle veut absolument qu'on les passe tous. On ne va pas les passer tous, on va en passer quelques-uns. On va passer un de plus. Mais juste avant qu'on enchaîne sur l'autre morceau, Versaillaise, ça ne vous plaît pas ?
Que par le hasard, je suis née à Versailles, mais mon père et ma mère ont émigré en région parisienne dans l'année où mon frère aîné est né à Lorient et moi je suis née à Versailles, mais les quatre autres sont nés à Suresnes, à l'hôpital de la SNCF. Il se trouve que ma mère avait trouvé un emploi, mon père a démarré à 13 ans comme cantonnier au chemin de fer en Bretagne. Et il était intelligent, à l'époque il y avait une promotion sociale et ses encadrants avaient compris que le môme était intelligent. Il a démarré à 13 ans parce que son père était maçon, était tombé du toit, était mort. Il y avait deux autres frères, il fallait travailler. Et donc ensuite, la SNCF a compris que ce gamin était doué, il s'est marié et 10 ans après, il avait commencé à monter les grades et on l'a envoyé à Paris. Ma mère a trouvé un emploi et on a atterri dans une école catho parce qu'on est en Bretagne et que donc le recteur, c'est-à-dire le curé, maman a été la première fille d'ouvrier du Morbihan à avoir son bac. Mon grand-père était ouvrier à l'Arsenal de Lorient. Au départ, était valet de chambre de la marquise de Carnac-Clédin. Moi, sur son lit de mort, mon grand-père m'a dit « Tu sais, Anne-Yvonne, je suis l'ouvrier le mieux payé de la place de Lorient et j'en suis fière. » Et moi, j'en ai encore les larmes aux yeux de vous raconter ça. Donc, de me faire reprocher en permanence d'être née à Versailles, parce que c'est sur la ligne Versailles-Champier, entre Lorient et Paris, ça me rend malade. Ça me rend malade. Donc, je vais vous dire, pire encore, ma gloire est d'être née le jour de la mort de Louis XIV.
Et donc, voilà. Là, alors, ce côté breton, là, presque anti-centralisateur, enfin.
L'état civil ne fait pas tout. Et moi, mes parents n'ont pas décidé ne sont pas nés en région parisienne. Ils sont nés en Bretagne. Ils n'ont pas fait le choix. Moi, je ne suis pas née ici. Ma mère n'était pas née à Paris. Partout en France, il y a des gens qui ne sont pas nés là où ils travaillent, là où ils vivent et là où ils seront
surtout
enterrés.
Chez les Bretons.
Non, dans toute la France. Ici à Montpellier, il y a 3 personnes sur 4 qui ne sont pas nées ici.
Vous avez le privilège d'avoir une en face de vous.
C'est bien. Vous voyez, on est dans la proportion. 1 sur 4.
On va remettre un petit morceau de musique.
Et sur la question de l'immigration, parce que c'est une question qui n'est pas anodine. Moi, je suis dans une immigration interne. Il y a des immigrations internes. La force de la France et la République, c'est le mélange et c'est de savoir, par l'éducation, par l'intégration, par des institutions nationales solides qu'on est en train de saper, de faire en sorte que tous ceux qui sont d'ici parce qu'ils sont ici c'est le droit du sol plus que le droit du sang. Et pour moi, c'est fondamental. Eh bien, on est en train de casser tout ça et on ne s'en aperçoit pas parce qu'au fond, c'est tellement simple et tellement facile d'être entre nous. Je crois que malheureusement, et j'aime, je sais qu'à Sète, par exemple, et partout, il y a des gens qui donnent de leur temps pour les gens en souffrance. Le caritatif fonctionne très, très bien. Mais à un moment donné, il faut que le caritatif devienne de politique. Parce que si ce n'est que le caritatif, c'est formidable, certes, mais ça ne résout rien. Ça résout des problèmes individuels, ça ne résout pas de problèmes de société.
Alors attention, aujourd'hui, sinon on est dans une société qui casse tout.
Pardon.
Bon, alors, le morceau, maintenant, va se réduire à 12 secondes, s'il vous plaît, au niveau de la technique pour le morceau. Tu nous envoies le petit morceau suivant ? Voilà. Retour dans nos studios avec Anne-Yvonne Lodin. Je voudrais qu'on revienne un petit peu là, au niveau local, là, Montpellier. Et une petite question là, pour Anne-Yvonne Lodin. Comment peut-on encore être socialiste aujourd'hui à Montpellier ? Ça fait quoi d'avoir été viré du PS ? Et la commission de réconciliation avec l'AMI, est-ce que ça s'est mieux passé qu'avec Aliès ? Enfin bref, où on en est de cette histoire-là ? Où est-ce qu'on va vers un PS LR, qui sera un parti socialiste Languedoc-Roussillon ? Où on en est ?
D'abord, on a tous intérêt à se réconcilier. L'AMI, François L'AMI, n'a pas jugé bon de rencontrer les 52 socialistes de la liste qui ont été exclus en recevant un courrier 3 semaines avant l'élection.
Donc c'est mal parti, quoi.
Moi, je ne sais pas, je n'ai pas rencontré ce monsieur qui n'a pas jugé bon ni de rencontrer aucun de mes co-exclus. Donc, ils ont vu ceux qu'il n'avait pas été, qu'il connaissait déjà, tout va bien. Et je suis abasourdie.
Dites-vous la fédération, voilà. Comment ça se passe ? Parce que donc Robert Navarro,
il n'y a Robert Navarro, plus rien. La trésorière fait fonction de premier fédéral par intérim, et puis voilà. Donc, on fait comme si, on avance, on continue, on fait comme si, on part du principe qu'on sera réintégré. Moi, ce que je pense, ce que je crains, c'est que finalement, Martine Aubry, elle a besoin d'une région et d'un territoire à donner aux autres, aux alliances possibles, et qu'on fait partie de la tactique nationale, dans la perspective des présidentielles. Si c'est ça, je n'accepterai pas. Et mais si
ouais,
c'est,
mais c'est quand même ça, quoi. Visiblement, c'est
ça se voit. Mais et ben on va se battre, on va combattre. La vie est un combat, rien n'est gagné. Moi, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est une mais question de détermination.
Pour se battre, il faut être deux. Puis visiblement, l'ami Aubry ne veulent pas combattre avec vous.
Oui, mais nous, on est casse-pieds.
Concrètement, ça va donner
arrivera,
quoi.
On y arrivera. De toute façon, écoutez, excusez-moi, la liste officielle du Parti Socialiste, conduite par Hélène Mandroux, a fait 11% sur Montpellier et moins 10% au niveau régional. Quel est son poids ? Moi, Georges Frêche, est un homme qui a une véritable force intellectuelle et morale et une véritable assise politique. Actuellement, on est à la région, on a été réélu avec 54% des voix. C'est considérable dans une triangulaire. C'est considérable. Donc on a une force. On est une force en action. On a voté notre budget le 18 juin. Si le président, si Georges Frêche avait souhaité qu'on se réunisse le 18 juin à la région, c'est bien véritablement pour montrer qu'on était dans un combat profond d'action au bénéfice de notre population, quelles que soient
les batailles politiques d'action au niveau régional. Au cours du premier mandat, vous étiez chargé largement du secteur économique. Et on a vu que pendant la campagne de Georges Frêche, il y avait 6 grands chapitres d'action future à mener, et notamment le 6e grand chapitre qui s'intitulait « Intelligence économique ». Mais visiblement, à part le mot qui est un mot clé, on n'a pas bien compris ce qu'il pouvait y avoir concrètement dans ce terme d'intelligence économique. Et je ne suis pas sûr que même à la région, il y ait quelqu'un qui ait compris quoi que ce soit à ce qu'est l'intelligence économique.
L'idée générale, c'est de se dire que on va dans...
L'intelligence économique, ça ne s'invente pas.
Le concept même, on le finance depuis 5 ans, parce qu'avec Transfert LR, nous finançons de manière assez lourde
des
bases de données. Et l'accès notamment, on donne à nos entreprises la capacité d'avoir accès pour une somme modique à des études localisé ou de rang mondial sur les grands secteurs de l'économie. Non pas les marchés, les études de marché en général, mais des choses très précises et très concrètes. On leur donne accès à ça, et ça, nous le finançons en termes d'intelligence économique autour du concept.
Ça, c'est un aspect de l'intelligence économique.
Mais ce n'est qu'un aspect.
C'est le knowledge management.
C'est l'outil d'accès à l'information, à des bases de données, à de l'information, en direct, de manière sécurisée et de manière plus ou moins confidentielle. Donc, donner à nos entreprises, PME et petites et moyennes entreprises, l'information stratégique et économique auxquels que se payent les grands groupes. C'est ça qu'on leur donne.
Les grands groupes font en plus appel à des conseils. On voit là, il y a une réunion qui se fait organisée par M. Didier Tanière, la DRIR, une fois de plus, une réunion intelligence économique avec des grands pontes, du Clusif, de la CCI, mais excusez-moi, de la gargarisation d'institutionnels. En
absolument
aucun cas, les entreprises ou des professionnels qui ont subi des cas de concurrence déloyale, ça fait partie de l'intelligence économique, viennent ou sont écoutés. On est dans une espèce de gargarisation institutionnelle qui a compris qu'il y avait quelque chose là-dedans, mais ils ne savent pas trop quoi en faire. Ils savent que c'est à la mode. Ils savent que c'est, grosso modo, une mauvaise terminologie du milieu anglo-saxon, de business intelligence. Mais concrètement, même les Chinois sont plus en avance que nous là-dessus. On a 20 ans de retard sur les Américains, les anglo-saxons en général. On n'a pas compris la notion de lobbying. Même si on essaie de mettre en place des maisons, etc., on n'a pas compris la promotion des intérêts d'un faire valoir langue dossier, pour prendre l'exemple de notre région, et de promotion. On est là dans une espèce de ventre mou.
Vous avez cité la DRIR. La DRIR, c'est un service de l'État. Aujourd'hui, la DIREC, ça n'est absolument pas le conseil régional. Je tiens à le préciser. On a lancé autour de l'intelligence économique en 2005, quand nous sommes arrivés. En 2004, on a mis 6 mois pour le mettre en route. Non seulement un concept, mais des pratiques. Les études et les travaux que nous mettons à disposition de nos entreprises, moyennement une somme assez modique de l'ordre de 1 200 euros, alors qu'on les paye beaucoup plus cher, c'est de leur donner accès à cette information stratégique que les grands groupes se payent, auxquels ils ont accès et auxquels nous, on leur donne accès à ça en toute confidentialité et en toute sécurité. Donc ça, c'est tout à fait essentiel. La question du lobbying, elle est fondamentale. Elle est fondamentale, mais elle heurte en même temps des principes républicains. Le lobbying, c'est la loi du plus fort. C'est un concept anglo-saxon. La loi anglo-saxonne, c'est la loi commune. La loi commune, c'est une espèce d'intelligence collective qui fait qu'à un moment, c'est une sorte de jurisprudence constante. Mmh. C'est-à-dire, on prend acte que le monde a changé et on s'adapte. Et ça, c'est le monde anglo-saxon. Le nôtre, c'est la loi romaine. C'est-à-dire, on travaille sur des principes. La France l'applique et l'applique plutôt bien. Donc, de ne pas vouloir être systématiquement à la traîne des Anglais, voire des Américains,
c'est pour ça que la maison du Languedoc,
vous voyez,
c'est pour ça que la maison
du Languedoc
à Bruxelles est un immense bazar.
Ça n'est absolument pas un immense bazar, c'est un endroit dans lequel...
sa directrice est visiblement plus ou moins virée, là.
C'est un autre débat. Ça, c'est une, c'est pas une question de bazar.
Il semblerait
ça.
Que
comme,
ce soit
j'arrive dans
comme Shanghai
dans,
pour
dans,
le vin.
Dans, non, non, bah, Shanghai, ça marche très bien. J'ai on est passé de 1 million de colles à 10 millions de colles en 8 ans.
Avec Kofco, par exemple, qui est le plus, un des plus gros importateurs. Mais quand je vois.
Mais j'ai,
on a fait un audit. Il y a un cabinet dans lequel je travaille, on a fait un audit de la filière régionale. C'est catastrophique, l'effet sud de France. Aujourd'hui, le retour, ils nous disent, c'est la charte de mauvaise qualité.
Mais
c'est ce qu'ils nous disent.
Oui, mais c'est ce qu'ils vous disent. Mais ce qu'ils vous disent, c'est ceux qui ne l'ont pas fait avant et qui sont furieux de ne pas l'avoir
et
fait
qui
avant.
Qui sont dans le contrat sud de France.
En pratique, on est passé en vin, on est passé de 1 million de colles vendues en Chine à 10 millions de colles en 3 ans. C'est ça, ça, c'est des chiffres, et c'est brut, et c'est simple. Après, qu'on ait du mal, et la France en général, je vous rappelle quand même que la balance commerciale de la France, elle n'est pas forcément exceptionnelle. Hein. On est quand même essentiellement un pays de service qui a oublié d'être industriel.
Compétitif.
Je vous rappelle pour mémoire que Pompidou et Giscard d'Estaing, je remonte à Mathusalem, mais on a, à force des grands plans, le plan calcul, le plan biomédical, le plan ceci, le plan cela, on a tué toute l'industrie française. Parce qu'on l'a mis dans les mains des grands ingénieurs de l'État et des grands énarques de l'État qui se sont mis à gouverner la France d'en haut et qui ont tué notre industrie. On avait un certain nombre d'entreprises du biomédical en région Languedoc-Roussillon. Quand je m'occupais de la recherche côté État dans les années 90 ici, on avait quand même un certain nombre de belles entreprises qui faisaient des appareils de radiologie, des prothèses, etc. Beaucoup sont mortes. On arrive à en récupérer quelques-uns. On est en train de créer un contrat de filière autour du diagnostic médical, par exemple. Donc, dans l'articulation recherche-économie. Et je n'oublie pas votre question initiale. On est en plein dans la question de l'intelligence de l'économie. On a à la fois une économie résidentielle, et c'est la chance que nous avons, c'est d'être dans une région en croissance démographique qui attire, parce qu'elle est belle, parce qu'il y a des équipements, parce qu'il y a un travail considérable fait à Montpellier, bien sûr, mais également à Sète, à Alès. Il y a des scènes nationales partout, il y a quand même de très beaux spectacles, il y a quand même une qualité de nos artistes qui est exceptionnelle et qui fait envie à des cadres de venir ici. Et comme on est à la fois près et loin, près de tout et loin de personne, ça marche bien. Moi, j'ai toujours considéré que Montpellier avait l'avantage d'être un peu le 21e arrondissement de Paris. En termes de dynamique sociale et économique, c'est vivant, c'est créatif, ça marche, ça bouge, c'est voilà. Et c'est, bon, on est en train de le déployer partout.
Et tout ça, c'était le premier mandat. Tout ça, c'était le premier mandat. Et le premier mandat est fini. Maintenant, vous n'êtes plus en charge de l'économie.
Oui, mais on a bien réussi quand même. Hein.
On va passer au deuxième
mandat.
On
accompagne 3 entreprises par jour et on va passer à 4.
Au niveau de l'enseignement, de la recherche. Enseignement supérieur et recherche. Mais juste avant, parce que depuis donc, mars, a commencé le deuxième mandat, le président, ça c'était attendu, était opéré. Alors, juste là, pour nos auditeurs, comment il va là, l'opération a priori? Il s'est bien passé. Il y a eu une grève au niveau clinique privé qui fait que
sa
rééducation s'est pas fait aussi bien que prévu, au point qu'il paraît qu'il aurait même écrit à Roselyne Bachelot pour dire c'est quoi ce bordel. Il avait qu'à quand même aller se faire soigner à l'hôpital public comme tout le monde. Surtout s'il veut faire président.
Bon point.
Surtout s'il veut faire président du CHU.
Moi j'ai accouché à l'hôpital public.
Il va comment le bras? Il va bien.
Il sort jeudi. Ça va, il va marcher avec
parce que
visiblement,
c'est un peu le bazar au cabinet.
Pas du tout. Mais ça vous plaît. Mais vous faites dans la politique aigrie. Ce qui importe, c'est l'action. On a voté 170 mesures vendredi dernier qui sont toutes extrêmement importantes, qui vont faire avancer notre économie, pas avec des grandes idées, mais avec des faits concrets, un par un. Chaque pas.
Et Cougnac, il part quand à la retraite ?
Le Cougnac ne part absolument pas à la retraite.
Ah voilà,
c'est peut-être
le problème.
Bon. Excusez-moi, cher monsieur, mais ne faites pas dans le jeunisme.
Non, c'était juste un petit.
Mais autour de la table, on est bien répartis sur le plan de la pyramide des âges. Mais moi, Brassens, qui est un anarchiste de droite que je n'aime pas particulièrement, même si c'est sympathique, il a quand même dit quand on est con, on est con. Hein.
Ça, c'est clair. Bon, bon bah ça. Passons à la politique régionale au niveau de l'enseignement supérieur et de la recherche. Avec quand même Montpellier qui, a priori, va faire partie des 10 pôles universitaires d'excellence.
On est dans le campus et on l'a bien négocié. Voilà. Georges Frêche l'a très bien négocié avec Mme Pécresse.
Concrètement, ça va être quoi là?
Eh bien, on a des opérations lourdes. Voilà. On a des opérations lourdes à construire, réussir le déplacement de la faculté de médecine, et ce qui n'est pas simple, parce que je me permets de vous signaler également que l'État, toujours le même, a une fois de plus modifié les lois dans des conditions absolument hallucinantes qui n'intéressent absolument pas les journalistes. C'est qu'il y aura désormais plus qu'un seul concours pour tout ce qui est profession biomédicale, du médecin en pharmacien, en passant par l'infirmière, l'aide-soignante, etc. Donc, grosso modo, on nous fait une société de caste, puisque les premiers seront les médecins, ceux qui seront aides-soignants, celles qui seront infirmières, ceux qui seront pharmaciens. Il y a une chose dont on se rassure, c'est qu'ils n'auront pas été les premiers au concours. Ça, c'est dramatique. Alors qu'aujourd'hui, un gamin ou une gamine, elle peut choisir en terminale de faire pharmacie, de faire infirmière, de faire sage-femme ou de faire médecin. C'est son choix. Demain, il y aura un seul concours pour tout le monde. Et bien, qu'est-ce qui se passera? On aura la grande bourgeoisie, famille qui sera médecin et le prolétaire qui sera aide-soignant. Plus aucun avenir. Eh bien, ça, cette réforme, il n'y a pas eu un média pour en parler. Mais, parce que, et pourquoi
où
parce
c'est,
que
l'État où c'est qu'il y a un changement parce que j'ai
ah bah, ben, il y a un concours de médecine, il y a un concours de pharmacie, il y a des écoles d'infirmières, il y a des écoles.
Ah oui, enfin, je connais voilà. Pas mal de fils de la bourgeoisie qui sont médecins, je connais pas trop de fils de prolétaires qui le soient, pareil au niveau avocat d'ailleurs.
Oui, mais
je vois pas ce que ça va changer.
Non, mais excusez-moi, actuellement, le système leur permet d'accéder. On va prendre les Français d'origine maghrébine. Moi, quand j'ai eu mes enfants, mon aîné est en 83, les jeunes filles d'origine maghrébine, elles étaient balayeuses, même pas aides-soignantes. Quand le dernier est né, il y a 10 ans, il y avait des femmes médecins d'origine maghrébine. En 10 ans, la République fait son travail. Peut-être pas de manière massive dans les statistiques, mais elle le fait. Aujourd'hui, vous en croisez. Et ils n'étaient pas ceux que la République prenait au Liban, en Syrie ou en Égypte pour les payer à bas prix, des filles de France. Or ça, c'est terminé. Désormais, vous aurez un seul concours, l'État fait des économies. Organiser un seul concours, c'est moins cher que d'en organiser plusieurs.
C'est une bonne nouvelle si l'État fait des économies.
C'est catastrophique. Non, c'est pas les bonnes. Il vaudrait mieux supprimer un certain. Il y aurait beaucoup de choses à faire, mais pas celle-là. Ça, c'est une réforme de caste.
Ah, par contre, juste une dernière chose au niveau de l'enseignement supérieur là-dessus. Parce que à chaque fois qu'on parle d'enseignement supérieur, que ce soit la région, au ministère ou n'importe quoi, alors on nous parle de médecine, on nous parle de chimie, on nous parle de.
Non, ça, c'est pas à chaque fois, et c'est pas à Paris, ça, c'est à Montpellier.
Alors j'aimerais bien que vous nous disiez deux mots sur l'avenir de Montpellier 3. C'est-à-dire des troisièmes cycles d'ethno, d'anthropologie.
Il n'y a pas de troisième cycle. Excusez-moi, dans la catégorie intellectuelle, vous vous posez là. D'abord, l'université, c'est aussi les premiers cycles, les seconds cycles et les troisièmes cycles. Ça n'est pas que les troisièmes cycles. Ça, c'est très important. Les jeunes, ils sortent de l'école. L'université est le seul espace où, pour l'instant, les parents n'ont pas à payer pour que les gosses fassent des études. Alors, vous allez me dire, peut-être qu'il faudrait payer pour que, justement, il y ait une sélection et patati et patata. Peut-être. C'est un travail de fond. C'est une question vraiment qui est fondamentale. Elle n'est pas qu'anecdotique, elle n'est pas que financière. Mais moi, je vais vous dire un truc horrible, là. Hein. C'est que je pense, et ça n'a pas été fait, je pense qu'on devrait se poser la question de l'accessibilité d'un barrage au niveau licence. Le risque qu'on a, c'est de transformer, d'avoir les pauvres en licence professionnelle.
Avant, c'était certif, quand même, hein. Après, c'était le
non,
des
ça, a toujours, ça, a toujours, ça a toujours été le bac. L'accès à l'enseignement supérieur a toujours été le bac.
Vous voulez que les gamins l'accès de 2 ans, ils aillent pas à l'école et vous voulez les garder jusqu'à quel âge ? Jusqu'à 45 ans.
Moi, je vais vous dire un truc. Sur le fond, je pense que dans une société où la complexité est en train massivement de devenir une règle de demain, gérer la complexité dans l'esprit de chacun est fondamental, dans sa vie personnelle, dans sa propre intelligence intérieure, dans sa famille, dans son métier, dans sa vie, sur un parcours de vie, c'est long. La gestion de la complexité, et en plus, je vais vous dire, c'est le sens de l'histoire du monde, pas seulement de l'homme. La complexification de l'histoire, la naissance, le Big Bang, moins 14 millions d'années. Le système organisé, c'est moins 4 millions, milliards d'années. Et l'homme, c'est 3 millions d'années. Donc on va dans une complexification croissante et on le voit bien au niveau des sociétés. On a une demande, par exemple, de tout ce qui est risques psychosociaux au travail. Il y a une espèce de souffrance intérieure. Avant, les gens ils avaient besoin de manger et d'être logés. Maintenant, ils sont en France, en tout cas, et en Europe. Ils sont logés. Et soignés. Ils sont encore éduqués, ça ne durera peut-être pas grâce à Sarkozy. Mais aujourd'hui, il y a donc un besoin d'intériorité publique, d'une certaine manière. Et le rôle de la société, c'est d'offrir ça. Ça n'est pas un surplus. C'est que la compétition, maintenant, elle est dans les cerveaux. Et on va revenir progressivement.
Mais Montpellier 3, vous ne répondez pas à Montpellier 3. On en fait quoi de Montpellier 3 ?
Mais il n'y a pas de raison de supprimer Montpellier 3. Montpellier 3, comment dire, en licence, en maîtrise et en doctorat, comment dire, donne et délivre une culture et des savoirs de base.
Qui débouche sur la NPE.
Mais c'est absolument pas vrai. C'est absolument pas vrai. Pas que la psychanalyse. Ça, c'est, excusez-moi, ce sont des réflexes, je vais dire une horreur, d'intellectuels qui vivent pas trop mal. Aujourd'hui, les gosses, ils trouvent du travail.
Qui sont les produits
des espagnolettes. Ils sont pas tous. Donc, je trouve que la faculté de lettres, d'ailleurs, aux évaluations récentes...
C'est vrai que ça ne va pas que des
journaux. Aux évaluations de l'État, parce que l'État a mis en place l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, qui vient de rendre ses rapports. Montpellier, unité de recherche par unité de recherche, vraiment, on s'en sort bien. On a une belle évaluation nationale. On a des beaux scores, parce que c'est évalué unité par unité.
Ne me dites pas que l'UFR de Géo est...
Et Montpellier 3... moi,
c'est la risée du monde.
Mais l'UFR de géo que vous avez peut-être fait, vous avez eu des profs de géographie qui ont bien formé. L'UFR de géo a vécu des moments difficiles, et je voudrais quand même là revenir aussi un peu de la lutte des classes toute simple. Il y avait à Montpellier un établissement dans les années 90 qui s'appelait le GIP Reclus, qui était l'école de géographie moderne, qui cartographiait le monde réel. Ça a été la première au monde à faire ça.
Ils ont inventé la banane bleue.
Non, mais pas seulement. Ça, c'est conceptuel, la banane bleue. C'est une expression. Ils ont fait bien d'autres choses que ça. Donc, notamment, ils ont cartographié, rendu visible par des cartes et des schémas, des choses qui étaient des complexes un petit peu compliqués. Après, ça s'est banalisé, les atlas. Il en sort tous les jours. Il y a même des émissions à la télé sur les atlas. Mais les premiers l'ont fait, c'est Reclus. Et bien, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'était la gauche. C'était Roger Brunet, c'était la gauche.
Oui.
Quand la droite est arrivée au pouvoir, M. Fillon était ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche à l'époque, je vous le rappelle.
Roger Brunet qui était le beau-père de Besson, quoi.
Je m'en fiche, c'est pas mon problème.
Non, mais
il ne faut pas mélanger les affaires privées et les affaires publiques. C'est déjà assez compliqué comme
ça. Sa fille est géographe.
Oui, mais ça n'a rien à voir. D'ailleurs, elle s'est séparée, ce qui est une bonne nouvelle. À mon avis.
Au bout de 20 ans.
Mais peut-être qu'elle n'a pas supporté la trahison qu'elle pressentait peut-être depuis un certain temps, mais qu'elle ne l'a pas supportée. Peut-être que c'est ça le problème.
Elle est une femme de gauche.
Ah oui, vraiment. Et donc, la droite, avec Caspi, le spécialiste d'histoire de l'Amérique, et Morin à Montpellier, spécialiste d'histoire militaire, Vous plaisantez.
Il est nulle part, il est ailleurs.
Non. Vous plaisantez. Ça fait partie de ceux qui ont empêché quand même la croissance de. Oui. On a eu là, en même temps que Loubatière, on a pris 5 ans de retard. 5 ans de retard. Heureusement qu'avec le projet Campus, on va pouvoir le rattraper.
C'est parce que vous aimez pas le népotisme.
Je n'aime pas le népotisme, effectivement. Donc, on revient. Eh bien, la droite nous a cassé. J'étais des RRT. J'étais délégué régional à la recherche. Cholvy est un grand monsieur. C'est un grand historien. C'est un homme de droite quand même. C'est un grand historien.
Ah oui, bah, c'était les trois.
Oui, je suis d'accord.
Qui se sont mariés. Mais il ne faut pas mélanger.
Il ne faut pas mélanger.
Attendez,
mais moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ce que vous dites. Vous êtes en train de, en utilisant des exemples, de donner à penser et à croire que tout est réseau et relations familiales. Moi, je suis un pur produit d'une Bretagne profonde, paysanne, rurale, qui vit maintenant à Montpellier,
vous
dans une
bien
république.
Anne
et je suis une intellectuelle.
Et non pas Mona Ozouf, parce qu'on croirait le bouquin de Mona Ozouf sur effectivement son
Mais je
parcours.
M'appelle bien Anne-Yvonne Ledin. Ledin, ça veut dire l'homme, Ardennes, et ma mère s'appelait Bléau, ce qui veut dire les loups, en Bretagne. Et je vis ici, je suis venue ici, et j'y mourrai, j'y serai enterrée parce que j'aime ce pays.
Alors maintenant, juste un dernier petit mot sur Castelnau.
Donc je voudrais revenir quand même sur le GIP Reclus et la géographie à Montpellier.
Il a été cassé
par des décisions politiques. À l'époque où François Fillon était ministre d'enseignement supérieur et de la recherche, ils voulaient la peau du GIP Reclus parce qu'ils avaient leur antenne à eux, leur petit cercle à eux, qui maintenant est celui qui est dans la vallée, je ne sais plus où, là-haut à Paris, dans l'Est, qui est très bien d'ailleurs, c'est un truc sympathique, mais ils ont tué Montpellier en géographie. Mais quand même, on a de belles choses. On a de beaux géographes à Montpellier. Et puis à Montpellier 3, il n'y a pas que de la géographie, il y a de l'anthropologie, il y a l'allemand, il y a l'égyptologie, il y a de la recherche en allemand. Ils ont un classement AERS qui est tout à fait remarquable, tout à fait de haut niveau. Donc nos jeunes, nos parents ont bien raison d'envoyer leurs enfants. Allez. Et après, comme on est en République et qu'on est en France, moi j'en connais, j'ai des amis de mes fils qui sont allés faire un master à Strasbourg, un doctorat à Rennes, tout va bien. Et après, ils y font leur vie ou ils reviennent ici. C'est ça, c'est la France, c'est la République.
Alors
moi,
là,
c'est un combat.
Là, j'allais dire, on reste sans voix. Là.
Ah ouais.
Redescendons encore plus sur Terre.
Je suis sur Terre.
Et allons à Castelnau. Castelnau.
Je suis sur Terre, très sur Terre.
Allons à Castelnau. Est-ce que vous trouvez encore le temps d'aller à Castelnau, je veux dire, à la mairie je veux
Conseil
dire la mairie.
Municipal, jeudi soir.
Et donc, vous y êtes
Je suis à tous les conseils municipaux.
Vous soyez dans l'opposition. Alors, Jean-Pierre Grand, vous avez quel type de relation avec lui?
Jean-Pierre Grand est un homme courtois, qui, je pense, sur le fond, est républicain. Je crois qu'il a il a mal démarré politiquement dans la vie, très à droite. Très, très à droite.
Il était attaché parlementaire de Chaban.
Oui, mais avant, je pense qu'il a démarré un peu plus à droite et que Chaban l'a éduqué.
Il aurait presque failli être mitterrandien, parce que
Chaban l'a éduqué, il lui a appris la République, c'est un républicain. C'est un républicain. Il a été son attaché parlementaire.
Pas très longtemps, d'ailleurs.
Oui, oui. Et Chaban Delmas lui a appris la République. Chaban Delmas, c'est un grand résistant. Mais il ne faut pas toujours faire le... C'est l'avenir qui compte. Là, on est en train de parler de choses...
L'avenir de Jean-Pierre Grand, c'est Villepin. Alors, Villepin,
mais c'est son avenir à lui, c'est pas le mien.
Villepin, c'est et les villepinistes, et donc Jean-Pierre Grand, c'est fréquentable ou c'est pas fréquentable?
Mais je vais vous dire un truc.
On peut faire des alliances ou là, on peut pas faire des alliances?
Je répète, la démocratie, c'est l'art de la guerre en temps de paix. Et donc, moi, les hommes politiques ne sont, de droite ne sont pas mes ennemis, sauf l'extrême droite dure. Je note quand même, je note quand même que, par exemple, Louis Alliot, qui est conseiller régional des Pyrénées-Orientales et donc
Front
du Conseil... non seulement il est Front National, mais c'est un homme pour lequel, et c'est là qu'on trouve que là, je trouve ça lamentable, que Roland Dumas a été son parrain pour passer son diplôme d'avocat du barreau. Roland Dumas, l'homme d'un certain nombre de prébendes qui ne me plaisent pas beaucoup... voilà, ça c'est pathétique. Ça c'est pathétique. Que ces types, ce Roland Dumas qui a été garde des Sceaux de gauche, soi-disant, se compromette pour la liberté de penser, la liberté de penser, de donner son parrainage à Louis Alliot, qui aurait parfaitement pu trouver des tas de gens pour le faire à sa place et qui n'avait pas besoin de Roland Dumas, mais s'il a été le chercher, c'est parce qu'ainsi ils émettent des signaux. Et ça, cette gauche-là, moi je n'en veux pas.
Et si on en revient juste 30 secondes à Dominique de Villepin? Vous nous avez dit tout à l'heure que la France, c'était la République solidaire. Et Villepin, lui, trouve que justement, la République solidaire, elle n'existe plus, que précisément, il faudrait la recréer,
la réinventer.
Non, mais
effectivement qu'elle n'existe plus. C'est le concept de la France, c'est ça. Aujourd'hui, avec M. Sarkozy, excusez-moi, trouve qu'il l'a haché.
Alliance possible.
Mais non, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Comment dire, il y a de l'intelligence partout. Mme Pécresse, quand elle a lancé le plan campus, par exemple, pour mémoire, je voudrais quand même rappeler que Languedoc-Roussillon, on est une des régions qui faisons le plus pour le plan campus. On met 1 euro pour 1 euro. Et quand on compare à toutes les régions, c'est considérable. Mais l'État n'ayant pas un rond, aujourd'hui, c'est une dotation. On va voir comment il l'a fait. Et donc, il faut travailler sur la rente de la dotation. Qui est-ce qui met le gros de l'argent concret pour faire les choses concrètement? C'est les collectivités territoriales, c'est la région Languedoc-Roussillon. C'est vrai que c'est un gros chantier. Alors, on revient à la faculté de médecine. Il faut quand même intégrer que maintenant, il va falloir enseigner à tous ces gens. Moi, je pense qu'il faudra revenir en arrière après sur cette non-segmentation des métiers et cette hiérarchisation par le concours à 18 ans ou à 20 ans. C'est pathétique. Mais il y a la chimie, le pôle Ballard, où il a fallu que la région rachète à l'État impécunieux le site de l'EFS pour y faire le pôle Ballard. Et on voit et on entend dire aujourd'hui que finalement, si on le faisait ailleurs, ce ne serait pas plus mal. Bon, les bras m'en tombent. Où est la République? Où est l'État? Avec une posture simple, bien gérer l'argent public et non pas dans des postures d'arrangement en douce, donc invisibilité du budget de l'État et visibilité d'un coupable formidable, les collectivités territoriales et bien évidemment les élus. D'où la réforme qu'ils sont en train de faire, de supprimer non pas les administrations, de récupérer l'argent à Paris, de garder les administrations territoriales et de supprimer les élus. Pourquoi? Parce que les collectivités territoriales, elles sont majoritairement à gauche. Et donc, de refaire une équation dans 4 ans, M. Sarkozy faisant le bilan qu'il serait réélu, de récupérer à leur bénéfice, par un effet générationnel, de mettre la droite au pouvoir dans toutes les régions de France. Le scénario, il est simple. En ce sens, Sarkozy sert bien sa majorité.
Vous voulez un petit morceau de musique?
Ouais.
Ah, allez. Alors on va se faire un petit morceau de musique. Petit morceau de musique suivant, apporté par Yvonne Lodin, bien sûr.
Écoutez là ma musique quand même, je me suis donné du mal.
The ponies run, the girls are young, the odds are there to be. Then it's done, your little winning streak. And summer now to deal with your invincible defeat. You live your life as if it's real. A thousand kisses deep. I'm turning tricks. I'm getting fixed. I'm back on Boogie Street. You lose your grip, and then you slip into the masterpiece. Drive and promises. to stay alive. A thousand kisses deep.
Retour dans nos studios, Divergence en compagnie de Anne-Yvonne Ledin, vice-présidente donc à la région. Je voudrais qu'on parle maintenant de votre militantisme politique. Quand on regarde au niveau de votre biographie, alors d'abord, on trouve très peu de choses sur le net ou sur des choses vous concernant. Une date de naissance, ingénieur agro, on ne trouve pas grand-chose. Pourquoi vous êtes rentré en politique? Et puis visiblement, mais peut-être ce n'est pas vrai, il semblerait tardivement, voire même très tardivement. Tandis que certains rentrent en politique à 16 ans, 17 ans, 18 ans, il semble que pour vous, c'était beaucoup plus tard. Et on se demande si vous n'êtes pas rentré par fréchisme, plus que par...
C'est étrange que vous voyez les choses comme ça.
Non, je les vois. C'est au travers de ce qu'on trouve sur vous
si on
au
pense,
niveau du
si net. On pense que la politique, ça n'est que le fait d'être élu et d'exercer un mandat ou d'avoir cette chance. Donc moi, je considère que c'est un honneur. Moi, je considère que la politique, c'est d'une part un honneur et d'autre part, c'est la gestion des rapports de force. Et c'est la construction et la gestion des rapports de force. Et que donc, pour pouvoir construire et gérer des rapports de force, il ne suffit pas de parler. Il faut comprendre la société, la connaître et l'avoir vécu de l'intérieur. Moi, je suis mère de famille. Je ne suis pas mariée. Je vis maritalement avec le même homme depuis 30 ans ou à peu près. Ce n'est pas toujours simple. On est dans la gestion des rapports de force constants. Mais mon dernier a 13 ans, l'aîné en a 26. Ça va bien, merci. Mais on est et je suis rentrée. J'ai toujours été une militante. J'ai adhéré au FAR, au Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, dans les années 74-75, à l'époque où c'était un truc d'homme, où il n'y avait pas de femme. Mais moi, ça me paraissait complètement normal, ce combat-là. Le combat de la liberté sexuelle. La liberté sexuelle, c'est la première des libertés. Elle est fondamentale. La liberté de penser et la liberté de vivre son corps comme on veut. C'est la liberté.
Donc en fait,
ça, c'est fondamental. Je suis une militante constante.
Tardivement, en fait. Non,
j'ai toujours milité. J'ai même été un peu dans les réseaux anar à une époque, puis j'ai vite compris que ça n'avait pas d'avenir. J'ai compris que c'est une posture intellectuelle et que ça n'est absolument pas une posture de l'action. Quand la vie, c'est agir. c'est penser et agir et partager. C'est, on gagne sa vie, ça c'est de rapport de force, mais on ne peut pas se contenter de parler, de penser et de donner des leçons de morale aux autres sur ce qu'il aurait fallu faire. Il faut mettre les mains dans le cambouis. Vous savez, sur un plan professionnel, il y a deux types de métiers. Il y a les opérationnels et les fonctionnels. Quand on a la chance d'exercer ou de pouvoir exercer un peu de responsabilité. Dans mon activité professionnelle, j'ai exercé les deux métiers. En fonctionnel, les fonctionnels, c'est ceux qui donnent des conseils et qui disent ce qu'il faut faire. Il en faut, c'est nécessaire. Mais quand on n'a jamais été opérationnel et qu'on n'a pas mis les mains dans le cambouis, qu'on ne sait pas coltiner, de gérer des laboratoires, d'avoir des problèmes de sécurité, des problèmes d'horaire, des problèmes de fermeture, d'ouverture, de toits qui sombrent, etc., on ne sait pas ce que c'est que la vie. Travailler, c'est voilà, il y a deux types de fonctions, de métiers, fonctionnel et opérationnel. Moi, j'ai la chance dans ma vie d'avoir pu faire les deux, d'en mesurer à la fois la grandeur et la faiblesse. La politique, vie, c'est l'étape suivante.
Perpétuellement, on passe de l'un à l'autre.
Dans la vie tout court, mais pas forcément dans la vie professionnelle.
Pas dans la vie professionnelle.
Or, la vie, c'est aussi la vie professionnelle. La vie, c'est surtout pour les femmes, mais aussi pour les hommes. Voilà, bon, c'est compliqué ça. Mais on peut en parler un jour. On fera un débat là-dessus. Mais donc on est dans une équation. Tout le monde ne choisit pas son métier. Tout le monde ne choisit pas de pouvoir évoluer. Moi, j'ai eu cette chance. C'est une chance qui m'a été donnée quand même en général par des hommes. Georges Frêche m'a vu faire. Il m'a vu en action. Quand j'étais déléguée à la recherche ici, que j'avais installé à l'occasion des fêtes de la science, une rizière sur la place de la Comédie, que j'avais mis le radeau des cimes au Pérou pour faire venir le public à la science.
Vous étiez déjà au Parti Socialiste ?
Je crois pas. Je suis pas sûre.
Non, c'est lui qui vous a présenté le Parti Socialiste ?
Pas du tout. Pas du tout, non. Excusez-moi, non. J'ai quand même, je crois, de savoir lire les journaux depuis longtemps. Je pense même que j'ai acheté le premier numéro de journal Libération que je dois encore avoir chez moi.
Petite non, mais quand je dis le Parti Socialiste, c'est
mais
pas le, les
mais
idées
après, c'est une question.
C'est la structure,
non,
c'est
non,
l'engagement.
Non. Il y a quand même des idées. Le débat d'idées au Parti Socialiste, c'est un débat tellement constant que ça finit par être invalidant. On a eu le congrès de Rennes, le congrès de Tours. On n'arrête pas d'avoir des congrès, on se discute, tout va bien.
C'est vrai,
il y a l'unanimisme, et actuellement, on a un unanimisme qui m'a viré. J'en suis marie et triste. Mais puisque justement, on n'est plus dans la pluralité. Moi, je note que Ségolène Royal, qui s'est présenté malgré le parti à la présidentielle, que Strauss-Kahn, il est parti, que moi, j'ai été virée, que Georges Frêche a été viré. Heureusement, il y a un certain nombre de grands élus, le maire de Lyon, qui sont venus nous soutenir. On en a beaucoup qui nous aident, le maire de Dijon, etc. On en a beaucoup. Grosso modo. Ceux qui gèrent mesurent la qualité d'un Georges Frêche et des listes qu'on accompagne des Albert au Cévennes. Mais la vie, c'est pas simple la vie, ni la vôtre, ni la mienne, ni en politique, ni rien. Si vous croyez que c'est simple pour moi de jongler entre les mots. Moi, j'ai été présidente de la FCPL Léraud pendant 5 ans. C'est un combat. Tous les lundis soirs, j'avais des gosses qui étaient en bas âge, qui n'étaient même pas encore au collège. Tous les lundis soirs, on était en réunion. On était 30 au conseil d'administration. Et ça discute. Et qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? Et voilà. Et puis après, il y a être sur le terrain. Parce qu'il ne suffit pas d'être président ou de présider un conseil tous les lundis soirs. Ça prend du temps, mais c'est pas honorif. Mais par contre, dans la semaine, il faut y aller à Dieu-et-Valquière. Il faut y aller à Pézenas. Il faut y aller dans les conseils locaux de chaque école. Pour régler les problèmes avec l'institution scolaire. C'est pas simple, c'est un débat constant. L'institution scolaire, elle campe sur des postures et en même temps, les parents, ils ont envie d'être acteurs. Moi, je pense, par exemple, je vais encore dire une horreur, que je crois que ce serait bien que dans les lycées et collèges, les présidents des conseils soient des parents d'élèves. On va me dire, mais ils sont aujourd'hui, c'est les principaux et les proviseurs. Mais bien, vous allez me dire, bien sûr, c'est irresponsable. C'est irresponsable pendant un an ou deux. Et puis après, les gens se calent. Parce que la responsabilité, quand vous avez la responsabilité de prendre une décision et de signer en bas de la page, vous contentez pas de réclamer ou de dire ça serait mieux si. Il faut décider, être opérationnel.
Sur le plan local
quand
et ici.
Quand vous prenez des décisions, dans une journée, quand vous êtes en décision, sur 10 décisions que vous prenez, il y en a 8 qui sont bonnes et 2 qui ne sont pas bonnes. C'est comme ça.
Sur le plan local.
Voilà.
C'est
fondamental.
Sur le plan local ici.
Quand vous prenez des décisions, il y en a sur 10, il y en a 2 qui ne sont pas terribles.
Quelle différence il peut y avoir entre vous et Christine Lazerge?
C'est pas parce qu'elle est une femme que je suis pareil qu'elle.
Non, en l'occurrence, elle était sur Castelnau. C'est elle qui s'était présentée sur Castelnau. Au départ.
Elle ne s'est jamais présentée au municipal à Castelnau en tête de liste. Jamais. C'est un point avec lequel je diverge avec elle.
D'accord.
C'est que moi, je vais au front sur mon nom personnel et pas planqué derrière quelqu'un.
C'est-à-dire planquée derrière.
Eh bien, elle était en numéro 2, elle n'était pas en numéro 1, donc ce n'est pas elle qui a perdu. C'est aussi simple que ça.
D'accord.
Excusez-moi, vous êtes journaliste, vous le savez très bien. Christine Lazer n'a jamais perdu une élection puisqu'elle ne s'est pas présentée de liste. Moi, j'ai perdu
elle a perdu aux législatives.
Oui, aux législatives, mais pas aux élections locales. Voilà. Elle aurait été au front, elle se serait présentée face à Jean-Pierre Grand, elle aurait peut-être gagné. Alors qu'elle elle s'est battue contre celui qui l'avait mis le pied à l'étrier, Georges Frêche, quand il était maire de Montpellier, président de l'agglomération, qui lui avait donné des mandats importants de vice-présidente où elle s'occupait du CCAS, quand elle a été élue députée dans une bilatérale avec le Front National. La droite parlementaire s'était explosée en plein vol. Donc il restait le Front National et elle. Donc elle gagnait à tous les coups. Elle n'a pas été réélue. Mais encore faut-il sur le terrain ne pas donner le sentiment qu'on est traître à sa cause et à son camp. Et notamment à ceux qui vous ont fait élire. Or, elle a systématiquement, en tant que députée, milité contre la grande agglo. 10 ans après, on le paye encore.
Oui, non, mais donc on a bien compris la différence qu'il peut y avoir entre vous et puis Christine Lazer. Bon, on arrive
pratiquement. Je ne suis pas toujours d'accord, mais je vous rassure.
Au terme de notre émission, il nous reste à peine une petite minute juste pour vous dire que la semaine prochaine.
J'aimerais bien qu'on parle Pascal Comlade, qui est un musicien formidable.
On va faire un véritable feu d'artifice donc, la semaine prochaine. Ce sera la dernière émission, le dernier numéro. De Provoscopie. L'émission aura lieu en direct de 18h30 à 20h depuis la place Saint-Jaume à Montpellier. C'est derrière la gare, place Saint-Jaume, dans le restaurant de notre ami Chez Jean. C'est la dernière de l'année. Elle s'intitule, cette dernière émission, Les Français parlent aux Français. Il y aura des représentants des grandes formations syndicales qui seront au micro au lendemain de la grande manif contre la réforme des retraites. En face d'eux, dans le public, il y aura un peu tout le gratin politique local pour les écouter et leur répondre. L'émission sera publique, conclura par une belle ripaille. Venez nombreux pour cette dernière émission avant les vacances estivales. Et en attendant, bonne semaine à tous et puis rendez-vous lundi. Mais un dernier mot de Anne-Yvonne Le Dain qui voulait nous présenter.
Je ne veux pas vous présenter. Il se trouve que j'ai vu que sur vos antennes, sur votre site, qu'il y avait un groupe qui passait ce soir parce que c'est la fête de la musique et que le nom de ce groupe m'a profondément choquée et je voulais le dire.
Et qui se passe qui
ici,
s'appelle
voilà, c'est non, le fait à l'entrée. Il s'appelle Sus Mon Beat.
D'accord.
Je trouve ça profondément choquant. Mettez-le au féminin et voyez si vous l'assumez, vous, en tant qu'homme. C'est une vraie question. On ne peut pas tout se permettre. Au nom de la liberté, on ne peut pas tout se permettre.
Voilà, alors j'ai eu l'impression d'entendre presque Wyszynski à Moscou en 1936. Mais...
N'exagérons rien. L'intimité, notamment l'intimité sexuelle, je me suis battue pour la liberté sexuelle, mais l'intimité sexuelle est quelque chose de très précieux. La grossièreté, la vulgarité, l'expression absolue d'une liberté totale sur des mots qui sont quand même des mots extrêmement violents, je la trouve profondément choquante. Quand il n'y aura plus d'intimité, il n'y aura plus d'humanité.
Et voilà, un dernier tout petit morceau, alors tout tranquillou, là. Là, on n'est plus au 21e siècle, on retombe au début du 20e siècle, là.
Chantez à vous.